Abondez ta grâce, ô Dieu. Abondez ta grâce sur ton peuple, ainsi que sur ton serviteur. Ok. Non. Tu tiens des comptes, toi? Ok. Oui, Daniel, c'est André. Ouais, ça va. Oui, ok. 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 Ben, selon moi, il est là. Bien sûr. Ok. Ben, j'ai utilisateur de Zoom, Android, moi, c'est tout ce que j'ai. Ok. C'est ça, les cloches. Ok, c'est bien. Ok. C'est bon. Ok. C'est bon. Ok, merci. Je te bénisse, Marc. Non, mets-toi donc du son pour savoir si on m'entend. Parce que moi, je me vois pas. Voilà, je vois juste un petit carré. Là. Un, deux, un, deux, trois, on m'entend bien? Répondez tous ensemble.
Oui, on entend.
Donc, ça a l'air qu'on m'entend. C'est pour ça que je vous ai dit, répondez tous ensemble très fort, que je puisse vous comprendre de chez moi. Parce que l'image que j'ai devant moi, ce n'est pas une image habituelle. Mais si on m'entend, comme vous voyez le visage, ce n'est pas vraiment important. Je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Mais que vous m'entendiez, ça, c'est important parce que c'est la parole de Dieu qu'on prend. C'est ce qui est important en tout cela. Donc, si vous m'entendez bien, on va débuter. Mon épouse me fait signe qu'on m'entend. OK, au moins on m'entend. Donc, on va commencer et c'est tout. Je vais tout simplement prier et j'espère que vous avez aussi l'image. Seigneur, nous nous remettons, mon Dieu, entre tes mains, te demandant miséricorde, Seigneur, sur nous. Je remets, Seigneur, ton peuple entre tes mains, ainsi que moi-même. Seigneur, que ce cours, Seigneur, puisse enrichir nos vies. Que ce cours puisse nous donner, Seigneur, de l'essor, qu'on puisse avancer dans notre connaissance, avancer, Seigneur, non pas pour avoir une connaissance tout à fait neutre, mais avoir une connaissance active de ta parole, afin que ta parole, Seigneur, puisse travailler avec nous, nous changer, nous transformer, ô Dieu. Seigneur, tu connais les tenants et les aboutissants, Seigneur, des différentes situations qu'on va retrouver dans le livre des Actes des Apôtres pour nous faire réfléchir, pour nous faire croître au Dieu. Seigneur, à toi seul, Seigneur, et à toi seul soit la gloire, l'honneur, le règne. Seigneur, que cette parole qu'on va regarder puisse nous enrichir, ô Dieu. J'ai prié dans ton nom, j'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Bénédiction, Seigneur, sur ton peuple. Amen. Donc, comme je vous ai dit, moi, là, je ne vois pas les mêmes choses que d'habitude, mais tant que vous me voyez comme il faut, ou encore mieux, que vous m'entendiez comme il faut, c'est ce qui est important, que vous m'entendiez comme il faut. On reprend notre cours sur les actes des apôtres, c'est-à-dire la semaine dernière. On a vu après les persécutions que Saul, ou appelé Paul, mais que Saul a faites dans l'Église primitive, on a vu la conversion de l'apôtre. L'apôtre, c'est en allant sur le chemin de Damas, rencontrer Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel, vu Jésus le ressuscité, qui lui a dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul lui répond: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Et à partir de là, on a vu le changement, le volte-face du pharisien qu'on appelait Saul et du chrétien qu'on appelle Paul. On a vu le volte-face qu'il a fait. Et la conversion, la puissance d'une conversion peut être aussi tranchée que cela. On a vu ça la semaine dernière où Paul passe de persécuteur de l'Église à serviteur de l'Église. Où Saul passe d'un meurtrier à un homme qui est prêt à donner sa vie pour l'Évangile. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière et on avait quitté en vous disant que même après sa conversion, beaucoup de chrétiens se méfiaient de lui. Même après qu'il ait prêché franchement au nom de Jésus, vous pouvez vous y référer dans l'enseignement de la semaine dernière. Et Barnabas le prit et lui le menait vers les apôtres en rendant un bon témoignage de lui. Et suivant ça, l'atmosphère, si vous voulez, est devenue plus relaxe pour lui. Et on a vu que Paul a pu commencer à affermir les pas de sa vie chrétienne. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière et on relate ici dans Actes chapitre 9 et on va prendre les versets 31 à 43, mais on relate au verset 31 qui va faire le lien entre la conversion de Saul, de Paul, si vous voulez, et la condition dans laquelle l'Église a du relâche. Paul était le principal persécuteur de l'Église. Après sa conversion, naturellement, l'Église a un peu de relâche. Le verset 31 du chapitre 9 des Actes des Apôtres nous dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » L'Église était en paix dans la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait. Donc, l'Église a eu un moment de relâche où Paul, le persécuteur, s'étant converti, a tombé dans une certaine paix. La parole de Dieu nous dit que l'Église était en paix. Dans les trois contrées que j'ai mentionnées, elle s'édifiait et elle marchait dans la crainte de Dieu et ceci donnait par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, de la croissance à l'Église. Verset 32 va nous faire tomber dans un autre registre après la conversion de l'apôtre Paul. Il va nous faire entrer où l'apôtre Pierre va encore avoir une prédominance. On va nous montrer les actions de Pierre. On va regarder un changement de mentalité de l'apôtre Pierre. Et vous allez voir que les changements de mentalité ne sont pas toujours évidents. Le Seigneur nous transforme. Il y a des gens qui ont des transformations comme ça, rapide, la parole de Dieu dit ça, la personne adhère tout de suite. Et il y a des gens que c'est un peu plus long, où ces gens-là ont besoin un peu plus d'être amenés par le Seigneur à avoir des convictions, parce qu'il y a des sillons dans leur pensée, ce que j'appelle souvent, moi, les sillons qui sont creusés dans la pensée de quelqu'un. Et quand on veut amener des fois quelqu'un à l'Évangile, de façon tout naturelle, il retombe dans ses anciens sillons. Et on va en regarder ici. Donc, au verset 32, « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent. Ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva, partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute où toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre les fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps. Il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et le leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Donc, on va regarder un peu après, si vous voulez, les choses qui se sont passées avec Paul, le focus se met un peu sur Pierre. Pierre fait son travail pastoral, il visite les églises, il fait son travail, si vous voulez, même apostolique. La parole de Dieu nous dit au verset 32, « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. » Okay? Soyons clairs, Pierre fait son travail de superviseur, on va dire ça comme ça, comme on supervise un troupeau de brebis. Le fait descend, regarde dans quel état se trouve l'église et arrive à un endroit, loge un frère fidèle nommé Simon, qui est un corroyeur. Un corroyeur était de mémoire comme ça, là, un tanneur, quelqu'un qui prend une peau d'animal et il va la tanner pour en faire du cuir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous donne une spécificité dans le texte, et je vous le dis comme ça, là, de mémoire, on nous dit ces hommes-là vont aller chercher Pierre. Et la maison que Pierre habite est près de la mer. Sûr et certain, quand les gens de Corneille vont y aller, c'est là qu'ils vont le trouver. Pourquoi? Parce que pour tanner une peau, ça prend beaucoup d'eau. Donc, ces gens-là s'installaient. Ici, c'est un petit addenda, près des rivières et de la mer, et ainsi de suite, parce que c'est un travail qui demandait beaucoup, beaucoup d'eau, soyons clairs. Donc, Pierre descend, va là, arrive et voit un homme qui est là, qui est malade depuis 8 ans, il est paralytique, un monsieur qui s'appelle Aîné. Et Pierre lui dit, Aîné, le Seigneur Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Qu'est-ce que ça a créé? Quand je dis souvent aux gens, si tu veux voir des miracles, faut t'évangéliser. Généralement, c'est accolé avec l'évangélisation. C'est une des façons dont l'Esprit de Dieu va éveiller la conscience des gens ou va faire porter un intérêt à l'Évangile par différentes actions que l'Esprit va faire au milieu d'un peuple qu'on évangélise. Et c'est pour ça que souvent les évangélistes vont dire, on voit beaucoup plus de miracles à l'extérieur de l'Église que dans l'Église. Et des fois, c'est mal jaugé. Et je vous le dis, des fois, c'est mal jaugé parce que les gens disent, ben, les gens de l'extérieur sont plus croyants que les gens de l'intérieur. Rien à voir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru pour faire notre travail, généralement. Pour l'évangélisation, il y a des choses qui accompagnent, qui vont avec l'évangélisation. Et généralement, ça va se manifester comme on le voit ici, pour que les gens s'assemblent, pour que les gens portent un intérêt à l'Évangile. Moi, dans mon travail personnel, avant que j'entre dans le ministère à temps plein, j'en faisais comme à temps partiel, si vous voulez, si on peut dire ça comme ça, et à mon travail, et j'ai vu plusieurs choses, dont je vous ai déjà raconté un peu des petites parties, et c'est pour ça que vous avez, exemple, à l'Église de Montréal, beaucoup de postiers. Pas par mon travail à moi, là, par le travail de plusieurs. On s'est mis à évangéliser, on s'est mis à parler et naturellement, il y a des choses qui accompagnaient les croyants qui évangélisent, dont des miracles. Et vous pourriez en parler au frère Gilles Lompré, qui ne connaît pas Gilles. Vous pourriez parler au frère Gilles Lompré, il vous raconterait sa propre conversion, comment lui-même avait un enfant malade. Il savait que les chrétiens, on se réunissait à une table en haut où personne allait. On allait là pour prier. Et lui, à un moment donné, s'est dirigé, a monté en haut pour venir voir le groupe qu'il y avait là parce qu'il y avait un enfant malade qui perdait le liquide rachidien du cerveau. Demandez-moi pas les tenants et les aboutissants, là, mais il perdait ce liquide-là par les oreilles, si je me rappelle bien. Et les médecins ont dit, ben, c'est extrêmement dangereux. Et lui, la question qu'il a posée, est-ce que ton Jésus serait capable d'arrêter ça? Et mon frère dans la chair, mon frère Jean-Bernard, qui est un frère aussi dans la foi, il a dit, tu vas rentrer chez toi, tu vas imposer tes mains à l'enfant et le Seigneur va te guérir. Et lui, il a dit, ben non, toi, tu pourrais-tu? Non, il dit, tu vas le faire toi-même. Et la conversion du fragile nombré découle de cet événement-là. Je pourrais vous en raconter d'autres qui sont dans l'Assemblée, d'autres postiers, et ainsi de suite, que la conversion va découler d'un moment où ils ont été secoués par l'Esprit de Dieu, où il s'est passé des choses. C'est pour cela que l'évangélisation est importante. Et Dieu peut permettre qu'il y ait des guérisons au milieu de nous pour attirer vos familles, pour attirer, comme ça peut se faire directement, comme dans mon cas, moi, sur mon lieu de travail. Le Seigneur m'avait donné tout simplement un ordre dans ce temps-là. Il m'a dit, tu vas prendre tes 30 minutes de lunch pour manger, puis tu ne mangeras pas. Tu vas faire le tour du bâtiment en priant. Puis après le 30 minutes, puis je n'avais pas le temps de faire deux, trois fois le tour. Là. Le bâtiment était trop grand. Tu avais fait une fois le tour en marchant vite, puis c'était assez. Et tu vas entrer. Puis c'est mon esprit qui va agir. Ceci étant dit, Pierre descend, s'en va à Lydde, prie pour cet homme-là, et après avoir prié pour lui, cet homme-là se lève, arrange son lit, et la parole de Dieu nous dit au verset 35, « Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. » Le virent et se convertirent à l'Évangile. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'évangéliser. Il y a des choses qui accompagnent ça, qui vont vous édifier, vous, et qui vont édifier ceux qui vont les voir. Et le Seigneur peut permettre des merveilles comme des miracles. Les miracles, ce n'est pas un temps révolu. Soyons clairs, c'est l'évangélisation est accompagnée par ça, et notre Dieu permet ces choses-là. Donc, la parole de Dieu nous dit, premier miracle de Pierre, à ce niveau-là, mais pas de Pierre, on comprend, et une grande foule de gens se convertissent. Et des gens entendent parler que Pierre est là. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit-là. Les croyants envoient chercher Pierre parce qu'il y a une dame, Tabitha, surnommée Dorcas. Et je vous le dis encore là, comme ça, le terme Tabitha veut dire gazelle. Et le nom d'Orcas veut dire aussi gazelle. Un, si je me rappelle bien, en araméen, et l'autre en grec, qui veulent dire exactement la même chose. Je vous le dis comme ça en passant. Et Pierre va avec eux, arrive là-bas, quand il est là, elle est morte, elle est dans une chambre haute. Ils ont commencé à préparer son corps pour l'embaumement. Quand Pierre arrive à cet endroit-là, il va vers elle, va vers les veuves, se fait conduire dans une chambre haute. Eux lui montrent ce que cette femme-là produisait, si vous voulez. Ils l'entourèrent, verset 39, en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant le temps qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Pas un spectacle. Pierre fait sortir tout le monde. Se tournant vers le corps, il l'appelle par son nom. Il dit, verset 40, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, verset 41. La fit lever et il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Regardez bien, verset 42. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. On voit un premier pas. Notre Dieu est un Dieu d'organisation. Il veut qu'on soit des gens qui organisent bien les choses, qui organisent bien nos vies. Tout en y laissant tout l'espace, toute la latitude nécessaire pour intervenir dans notre organisation. L'apôtre Pierre commence par partir de Jérusalem, faire un premier arrêt à Lydde. Miracle fait, des gens convertis, se fait appeler pour aller un peu plus loin, se rend jusqu'à Joppé, arrive à Joppé, ressuscite Tabitha ou Dorcas, ressuscite Dorcas, ce qui éteint encore plus la renommée du Seigneur. Et on va voir que Pierre de Joppé va aller encore plus loin. Le Seigneur nous fait souvent faire des pas. Je partageais avec mon épouse et je lui disais la marche par la foi. Dieu ne nous demande pas de faire une course. Souvent, il attend qu'on fasse un pas de foi. Quand on a fait un pas, il nous en fait faire un deuxième, un troisième, un quatrième, et le Seigneur nous conduit sur le chemin. C'est-à-dire que nous, il faut avoir un peu l'organisation de ce qu'on va faire, mais laisser toute la latitude à l'Esprit de Dieu pour nous amener où il veut nous amener. Soyons clairs, de là, à partir du chapitre 10, on va regarder une histoire sur laquelle, là, ici, je vous ai passé un peu comment le Seigneur a amené Pierre plus près du but, okay, si vous voulez, qu'il voulait lui faire atteindre. Tantôt, je vous ai parlé que des fois, on a des sillons dans notre intellect. On a des façons de faire, des façons de procéder, des façons de penser. Et des fois, le Seigneur va vouloir nous faire sortir de nos... beaucoup de prédicateurs appellent ça de notre zone de confort. Le Seigneur va vouloir nous amener plus loin. Et ici, c'est ce qui va se produire avec l'apôtre Pierre. Après les deux premiers événements, n'oubliez pas que Pierre avait été élevé de façon très orthodoxe, si vous voulez, juive. Et déjà, le Seigneur l'amène à deux endroits différents, lui fait élargir un peu son horizon sans entrer dans les détails. Il loge chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Et on va regarder un peu l'histoire de Corneille à partir de maintenant. Dieu a fait faire deux étapes, si vous voulez, à Pierre. Puis la troisième étape étant l'étape la plus, peut-être la plus difficile pour Pierre. Parce que là, Pierre va devoir désapprendre quelque chose pour apprendre quelque chose. Quand on parle de laisser le Seigneur nous mener, nous amener où lui veut, on est en train de parler de céder aussi devant la pensée de la parole, notre pensée. De céder devant la pensée de la parole, notre pensée et notre façon de faire, notre façon de voir, de concevoir les choses. Si vous vous rappelez bien, avant la pandémie, pour ceux qui font partie de l'EAJC Montréal, avant la pandémie, on avait installé certains programmes en place. Et souvent, quand je parle des fois avec le pasteur Florent, on parle des fois d'organiser certaines choses et sans enlever à l'Esprit de Dieu toute la latitude dont il a besoin pour changer, transformer nos plans. Si vous vous rappelez bien, on avait installé à l'Église des soirées d'évangélisation. Une fois par mois, des soirées cinéma. Dans l'été, on avait l'intention d'aller dans des parcs pour évangéliser avec une petite orchestre là, ou des chanteurs a cappella. Mais on avait l'intention d'étendre un peu ces choses-là. Et on avait fait, par la même occasion, on savait que venait le 50e anniversaire de l'Église. Donc, on avait mis en place aussi des soupers missionnaires. Et je disais, le souper missionnaire, c'est quelque chose qui avait déjà existé dans l'Église. C'est quelque chose qui est bon. Pourquoi? Parce que les gens, généralement, finissent l'Église et le dimanche, prennent ça plus relax, décident d'aller manger dans un restaurant sans les nommer. Il y en a un qui a un gros M, qui est populaire. Et je disais, mais pourquoi pas retenir les gens pour avoir une communion fraternelle et en même temps retenir, et je vous le dis clairement comme ça, retenir leurs sous qui auraient été dépensés ailleurs pour financer la venue des missionnaires pour le 50e. Mais comme vous avez vu, des choses ont changé. Qui m'aurait dit un jour que je me retrouverais devant un écran en train de vous donner un enseignement? Mais il faut être souple. Ce n'est pas un gros sacrifice, soyons clairs. Il faut être souple. Et l'Esprit de Dieu nous a conduits là, à travers cette pandémie-là. Je parlais avec quelqu'un la semaine dernière. Il dit la pandémie est en train de décimer l'Église. Quand on va rouvrir les églises, il n'y aura plus personne dedans. Puis il me parlait. Je dis, tu peux le voir de cette façon-là. Je dis, et tu as peut-être raison. Mais tu peux le voir d'une autre façon aussi. Notre Dieu est en contrôle de tout. Peut-être que Dieu est aussi en train d'épurer l'Église pour savoir qui est qui. Je dis, si je t'amène une autre facette de ta pensée, peut-être que la pandémie va révéler qui est qui. Peut-être que le fait qu'on ne peut plus s'assembler en présentiel va révéler quel tonneau votre foi a. Est-ce que tu es capable de prier seul le matin? Est-ce qu'il faut, ça te prend absolument un groupe? On a vu un groupe cette semaine se faire sortir un peu de leur endroit de prière et un de leurs leaders qui disait que c'est peut-être étrange pour nous autres, mais eux autres, ils ne peuvent pas vivre sans prier. Moi, je peux pas vivre sans prier non plus, mais je n'ai pas besoin d'être 30. J'aime prier à 30, mais je peux être seul dans mon bureau en train de prier. Si eux ont absolument besoin d'être avec d'autres, j'espère qu'ils ne se retrouveront jamais sur une île déserte, sinon leur vie spirituelle vient de s'éteindre. Soyons clairs. Peut-être que la pandémie sert aussi à épurer l'Église, à avoir, vous et moi, une bonne vision de nous. Où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Quand je parle des sillons de votre tête, j'en reviens directement à mon sujet. Pierre avait une idée de qui il était et Dieu va lui montrer quelque chose. Pierre a fait des miracles, Pierre s'est converti, Pierre a ranimé l'esprit de ses frères après qu'il soit revenu, comme Jésus lui avait dit. L'évangile s'est répandu à venir jusqu'à date dans l'étude qu'on fait. En bonne partie grâce à la parole que Dieu a déposée dans la bouche de Pierre. Rappelez-vous, dans les premiers versets de Actes des Apôtres, c'est Pierre qui prend la parole le premier. Conversion, 3 000 hommes. Deuxième discours de Pierre, conversion, 5 000 hommes, et ainsi de suite. Et Pierre avance, et pourtant, notre ami n'est pas rendu au bout de son apprentissage avec le Seigneur. Et dans Actes chapitre 10, je vous prends les versets 1 à 8, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Et dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Et cet homme-là s'appelle Corneille. C'est un Romain. Il n'y a rien d'un juif. Il est, en plus de ça, sa fonction, c'est un centenier, c'est un chef de 100 hommes dans l'armée romaine. Donc, il y a un certain poste de gouvernance. Et il est à Césarée, il est posté, si vous voulez, à Césarée, comme des militaires, des fois, vont aller pour force de maintien de la paix. Force de maintien de la paix dans d'autres pays. Aujourd'hui, c'est les casques bleus, mais dans le temps, souvent, les pays, les empires qui prenaient possession de des pays, souvent laissaient des postes de garnison dans certains endroits pour assurer qu'il n'y ait pas de troubles, qu'il n'y ait pas de révolte. Et ainsi, Corneille s'est retrouvé à Césarée comme centenier pour garder l'ordre, disons ça de cette façon-là. On nous décrit, quelle description nous fait-on de cet homme-là? Cet homme-là, premièrement, n'était pas un prosélyte. Et ça, on va le définir tout de suite. C'était pas un judaïsant prosélyte. Par contre, c'était un fort sympathisant. Par contre, c'était un adhérent à la foi judaïque jusqu'à la limite où il pouvait aller, étant romain, jusqu'à la limite où il pouvait aller, mais sans être un prosélyte, parce qu'en Actes chapitre 11 et le verset 3, Pierre se fait faire comme reproche par les Juifs. Pierre se fait dire, tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux, ce qui était strictement défendu pour eux. Et le reproche qui lui est fait, tu es entré chez des incirconcis. Donc, Corneille n'était pas un prosélyte. D'accord? C'est-à-dire, ce n'était pas quelqu'un qui avait adhéré jusqu'à la circoncision, comme il était demandé à des prosélytes. Regardez bien la description de cet homme-là. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde et priait Dieu continuellement. Un bon chrétien, selon les normes extérieures. Mais cet homme-là n'était pas sauvé. Cet homme-là n'était pas sauvé. Ici, là, j'aimerais dire, regardez-moi bien, mais moi, je ne vous verrai pas. Okay? Soyons clairs. Mais comprenez-moi bien. La religion de quelqu'un, jusqu'à où cette personne-là va faire de bonnes œuvres extérieures, ne fait pas de lui un enfant de Dieu. Cet homme-là était pieux. Vous savez, quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui a une bonne conduite selon Dieu, qui se conduit de la bonne façon. La piété, là, j'ai englobé large, OK? Il craint Dieu. C'est plein de chrétiens qui craignent même pas Dieu. Ils pensent que Dieu, c'est leur ami, puis qu'ils peuvent l'envoyer se promener quand Dieu demande quelque chose qui ne l'arrange pas. Je dis souvent aux gens, Dieu, c'est pas ton chum. Dieu est Dieu. Comme je dis souvent à des parents, moi, je veux que mes enfants soient mes amis. Moi, je veux que mes enfants soient mes enfants. J'ai déjà dit à mon fils, qui était tout à fait majeur, là, il était rentré, il se passait quelque chose dehors, il était rentré tout excité, puis il m'a dit, Hey, man, dehors. Je dis, man, ça, c'est ton chum dehors. Moi, tu ne me donnes pas ce nom-là. Il faut garder tout de même un certain, ben, Dieu, c'est Dieu. Cet homme-là était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison, faisait beaucoup de monde, je vous le répète, faisait beaucoup de monde, et je vous le répète encore, faisait beaucoup de monde, toujours pas sauvé notre bonhomme là, et priait Dieu continuellement. C'est ce que la Bible nous reflète de cet homme-là, nous reflète de Corneille. Dieu déplace un ange. Il lui envoie un ange. Déplace un ange. Et ici, je vous rappelle une chose que je vous ai dite la semaine dernière. Dieu déplace un ange pour lui faire tout simplement une commission. Lui dire, l'ange va lui dire, fais chercher Pierre. Est-ce que vous pensez que l'ange aurait pas pu faire le travail? Est-ce que vous pensez que l'ange ne connaissait pas le plan du salut, qu'il ne pouvait pas faire une bonne job, annoncer le salut à Corneille? Sûrement. Rappelez-vous la semaine dernière quand je vous ai parlé, entre autres, en vous disant que Dieu, que le Seigneur, nous laisse entrer dans son travail, permet qu'on entre dans son travail parce qu'il veut que l'Église soit participante à son œuvre afin de nous récompenser. Dieu n'a pas besoin, le Seigneur n'a pas besoin, ni de vous, ni de moi. Il n'a pas besoin de vous et moi. Le Seigneur n'a pas besoin de nous du tout. Mais le Seigneur, dans son amour, le Seigneur, dans sa bonté, veut que son Église soit co-héritière, veut que son Église soit participante à son œuvre. Et c'est pour ça qu'il nous donne du travail à faire. Il nous donne des choses à faire. Il permet qu'on entre dans son travail. Permet qu'on entre dans son travail pour pouvoir nous récompenser de notre travail. L'ange aurait pu faire le travail. Dieu ne lui a pas fait faire son travail, c'est le travail de l'Église de faire ça. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous avais parlé de cela en vous disant, quand Jésus va ressusciter Lazare, Jésus va ressusciter Lazare, et la seule chose que les gens qui sont là ne sont pas capables de faire, c'est ressusciter Lazare. Mais ils sont très, très bien capables de rouler la pierre à l'entrée. Est-ce que vous pensez que Jésus aurait pu rouler la pierre à l'entrée? La parole de Dieu, Jésus lui-même va dire à ses disciples, si vous auriez de la foi comme un grain de sélevé, vous diriez à cette montagne, jette-toi dans la mer et elle vous obéirait. Donc, pas de problème du côté du Seigneur. Le Seigneur aurait pu dire à la pierre, ôte-toi de là, puis elle se serait tout simplement tassée de plat. Mais le Seigneur a fait participer les hommes à ce que les hommes étaient capables de produire, rouler la pierre. Et lui a fait ce que les hommes n'étaient pas capables de produire, ressusciter Lazare. De la même façon, je vous avais parlé un peu de la construction de l'arche. Noé a mis beaucoup d'ardeur, a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, probablement sué à